Le journal Didier Duployé.
François Hollande attendu demain à Berne, de quoi célébrer le renouveau de l'amitié franco-suisse? Pas du tout pour l'avocat fiscaliste François Trippé. Vous l'entendrez, quand François Hollande vient faire des risettes à Evelyne Wilmer-Schlumpf au nom d'une paix fiscale retrouvée, il crie à l'imposture. Cette nouvelle idylle franco-suisse, c'est de la foutaise, dit-il encore.
Alors, des mots très durs, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une visite de réconciliation après la période très délicate sur la question du secret bancaire? Le chef du département fédéral des affaires étrangères, le conseiller fédéral Didier Burkhalter, est l'invité du journal à 7h35.
Le 7 mai prochain, les électeurs britanniques sont appelés à renouveler leur parlement.
Et en cas de victoire des conservateurs de David Cameron, la voie serait ouverte pour un référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit. L'enjeu est de taille pour les Britanniques et pourtant, nous dira Catherine Illich, notre correspondante, il ne figure pas parmi leurs premières préoccupations.
C'était il y a tout juste un an, 276 lycéennes étaient enlevées au Nigeria par des islamistes de Boko Haram. Aujourd'hui, plus de 200 sont toujours portés disparus, au même titre que la mobilisation internationale déclenchée alors pour les retrouver.
Largement réélu le week-end dernier à la présidence du conseil d'administration de la NZZ, Étienne Jorneau veut oublier les polémiques des dernières semaines. Le Neuchâtelois qu'on disait fragilisé à la tête du groupe de presse zurichois est déterminé à mener à bien la restructuration. Et nous l'entendrons, il exclut aussi d'investir en Suisse romande. Étienne Jorneau est avec nous dans une vingtaine de minutes.
Le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue en tennis, c'est à Monte Carlo, l'occasion pour Stan Wawrinka de faire oublier ses mauvais résultats lors de la tournée américaine. Il doit réagir, c'est ce que nous dira Hervé Borsier. Dégel des relations franco-suisses, amitié retrouvée, paix fiscale, diplomatiquement parlant, la visite d'État du président français François Hollande en Suisse demain et jeudi doit consacrer cette réconciliation entre Paris et Berne après des années de vives tensions fiscales notamment. Depuis, la régularisation des clients français des banques suisses s'est accélérée et avant de paix souffle aussi depuis le voyage de Didier Burkhalter, alors président de la Confédération à l'Élysée, c'était en novembre dernier.
Et donc tout irait bien dans le meilleur des mondes.
Eh bien pas vraiment, en tout cas pour l'avocat fiscaliste François Trippé, établi lui à Paris et à Genève, lui ne croit pas du tout en cette nouvelle idylle franco-suisse.
Non, le mot de paix fiscale est une plaisanterie, voire même une provocation. Il n'y a pas de paix fiscale, il y a même les prémices d'une vraie guerre à long terme, une guerre de position à long terme fiscale, le jour où la Suisse va se réveiller, qu'elle va se rendre compte que ce qu'elle a lâché n'a donné lieu à aucune contrepartie et que trop c'est trop. Et que par ailleurs, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est son essence même. Elle a mis des décennies à essayer d'acquérir un statut d'honorabilité qu'on essaye de dégommer à tout prix. On fait de n'importe quel établissement bancaire un complice criminel d'opérations de blanchiment pour fraude fiscale autoproclamée.
Donc à vous entendre, c'est la Suisse qui va déclencher les hostilités.
L'agressivité de la France à l'égard de la Suisse a laissé la Suisse stupéfaite. À un moment donné, à force de céder et de ne rien récolter en contrepartie, la Suisse va récolter de la réduction de sa prospérité économique, de la perte de sa crédibilité, de son excellence, et donc par conséquent ne pourra pas faire autrement que de réagir. Donc on est dans de la manipulation complète, totale. Quand vous me parlez de l'arrivée de Hollande, qui vient faire des risettes à Wilmer-Schlumpf au nom d'une paix fiscale retrouvée, je crie à l'imposture, au scandale. C'est de la foutaise. Revenons aux choses sérieuses et essayons de comprendre qu'il y a entre nos deux pays des liens qui méritent mieux que ce langage qui n'a plus de sens et qui n'est même plus crédible d'une très large partie des auditeurs. Il y a eu deux types qui ont sauvé la Suisse, Guillaume Tell et Winkelried. Il est temps qu'il y en ait un troisième qui naisse et que Mme Wilmer-Schlumpf termine sa carrière politique.
Donc les propos très vifs de l'avocat fiscaliste François Trippé qui répondait à Pietro Bignon.
Donc on l'a compris, une visite qui ne fait pas l'unanimité, notamment sur les aspects fiscaux des relations entre la Suisse et la France.
Oui, on vient de l'entendre effectivement, mais c'est une visite de prestige qui sur le plan diplomatique reste particulièrement bonne à prendre tout de même pour une Suisse en quête de soutien sur le dossier européen, Christian Favre.
Accueillir un voisin prestigieux ne résout pas tout, mais quand un pays a besoin d'amis sur qui compter, il met les formes pour se donner les moyens de marquer des points. C'est à peu de choses près la situation de la Suisse, embourbée depuis février 2014 dans ses relations avec Bruxelles, après avoir remis en question un des principes clés de l'Union, la libre circulation des personnes, jusqu'à récolter les lauriers de quasi tous les mouvements souverainistes et anti-européens du continent. Alors certes, François Hollande est un président affaibli, mais la France reste, aux côtés de l'Allemagne, une des nations qui donne le ton à Bruxelles. La situation particulière de la Suisse et l'avenir des bilatérales n'est pas un des buts avoués de cette visite, où l'on parlera surtout des relations fiscales entre les deux pays, ainsi que de formation. Mais le dossier européen imprégnera sans doute toutes les discussions, autant à l'EPFL que lors des visites d'entreprises prévues à Zurich, ou encore lorsqu'il s'agira d'évoquer le sort des travailleurs frontaliers. Avec un espoir, obtenir de la France au moins une oreille un peu plus compréhensive sur les réalités qui font la Suisse d'aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on peut parler entre la France et la Suisse d'une visite de réconciliation ? Est-ce que la France peut nous donner un coup de pouce aussi dans le dossier européen entre Berne et Bruxelles ? Le chef du département fédéral des affaires étrangères, Didier Burkhalter, est l'invité du journal à 7h35.
Et François Hollande qui doit en tout cas se réjouir de la vente de Rafale à l'étranger, de retour d'Arabie Saoudite, le ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius, a laissé entendre que les négociations pour la vente de ses avions de combat aux Émirats Arabes Unis progressaient. Jamais 203, a-t-il déclaré. Il a fait allusion ainsi au contrat décroché dernièrement avec l'Inde, avec l'Égypte aussi. C'est la première fois que le Rafale est vendu à des pays étrangers depuis le début de sa mise en service il y a 13 ans. Un retournement de situation qu'explique Alexandre Vautravers, directeur des relations internationales de l'Université Webster.
C'est une période faste. Le Rafale a eu beaucoup de difficultés à être vendu du fait qu'il était un avion très nouveau dans les années 1990-2000.
Et très cher aussi.
Et très cher. Et puis, il y a toujours le souci de la logistique, c'est-à-dire lorsque vous avez un appareil qui a une logistique différente de tous les appareils en service, c'est forcément quelque chose qui va coûter cher.
Est-ce que vous avez l'impression que la France profite aussi d'un refroidissement des relations entre les pays du Golfe et les États-Unis ?
Je ne pense pas, mais par contre, il y a une politique traditionnelle de certains pays du Golfe de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et les Saoudiens, par exemple, pendant de nombreuses décennies, ont acheté des avions aux Américains, mais ils ont aussi acheté des avions aux Britanniques, pourquoi pas aux Français, finalement. C'est un appareil qui a été prouvé, qui a été testé dans différents engagements, par exemple en Libye ou au Mali, en Afghanistan. Et c'est un appareil qui, par rapport aux appareils américains sur le marché actuellement, a un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'avantages. Deuxièmement, la France, prêt à vendre sur étagère sans poser trop de questions. On achète, si on veut bien, une possibilité d'intervenir en dehors de ses frontières sans devoir référer nécessairement à Washington et à Moscou.
On sait que le Rafale est un avion très très cher. Est-ce que vous pensez qu'avec la baisse de l'euro, ça a pu jouer un rôle ?
On peut imaginer cela. Encore une fois, ça dépend des contrats qui seront négociés et avec quels États. Avec les pétromonarchies du Golfe, on n'est pas à 1 milliard près.
Des précisions d'Alexandre Vautravers recueillies par Francesca Girofo. Et lui, il veut être le premier président latino des États-Unis. Marco Rubio, d'origine cubaine, annonce sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle de l'an prochain. À 43 ans, ce jeune sénateur de Floride est le troisième candidat majeur ainsi à se lancer dans cette course très disputée chez les républicains. C'était il y a tout juste un an, 276 lycéennes étaient enlevées à Chibok au Nigeria, enlevées par des islamistes de Boko Haram. Aujourd'hui, plus de 200 sont toujours portées disparues, mais la mobilisation générale, elle, s'est évanouie, Céline Tso.
Oui, le kidnapping massif de ces 276 adolescentes avait soulevé une vague d'indignation internationale. Des personnalités, des stars s'étaient mobilisées. Le hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles, avait fleuri sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait les retrouver. Et puis aujourd'hui, plus rien, ou presque. Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, explique pourquoi.
La mobilisation internationale a été, entre autres, conduite par Michelle Obama elle-même. Et derrière, quand les chefs d'État, Grande-Bretagne, France, États-Unis, ont dit se mobiliser et tout mettre en œuvre pour les retrouver, il y a eu l'organisation du sommet de Paris où tout le monde a eu l'impression que ça y est, les chefs d'État prenaient la situation en main, on allait retrouver ces jeunes filles et la tension a baissé. Mais petit à petit, la situation s'est enlisée, comme si tout d'un coup on faisait confiance à ces chefs d'État qui s'étaient engagés à les retrouver, mais qui finalement ne l'ont pas fait puisqu'elles ne sont toujours pas revenues.
Oui, et depuis, la violence a continué, voire augmenté au Nigeria. La secte islamiste Boko Haram a entre-temps enlevé et tué des centaines d'autres personnes dans une indifférence presque générale. Au moins 2000 fillettes ont disparu depuis début 2014, estime Amnesty International. Le nouveau président du Nigeria a promis hier de tout faire pour retrouver les lycéennes et pour mettre fin aux exactions dans son pays.
Céline, merci. Et puis un défilé est prévu d'ailleurs aujourd'hui à Abuja pour ne pas oublier donc cet enlèvement des lycéennes de Chibok il y a tout juste un an.
7h10, en Suisse, le transfert de la route au rail à travers les Alpes progresse.
L'an dernier, le transport de marchandises sur le rail a en effet augmenté, selon les statistiques de l'Office fédéral des transports. Et parallèlement, le nombre de camions transitant par les Alpes a diminué pour retrouver le niveau du milieu des années 90, quand le peuple a accepté l'initiative des Alpes. Et c'est une tendance qui réjouit le socialiste Mathias Reynard, conseiller national valaisan du comité de l'initiative des Alpes.
On se réjouit de ce chiffre parce que c'est un record depuis de nombreuses années, mais c'est un chiffre qui est quand même supérieur à ce que la loi autorise. On dépasse de plusieurs milliers le nombre de camions autorisés normalement à traverser les Alpes. Donc de ce côté-là, ça ne peut pas nous réjouir. On doit encore faire davantage d'efforts. On a un objectif d'ici 2018 qui est réaliste, mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. On doit encore faire davantage d'efforts. La question d'une bourse du transit alpin qui fixerait un nombre maximum de camions pouvant traverser les Alpes pour se rendre d'un pays à l'autre, ça reste d'actualité. On doit maintenir la pression. Vous savez, sans la pression du peuple, sans la pression de l'initiative des Alpes, sans la pression d'organisations qui veulent défendre la question du transfert de la route vers le rail, qui veulent défendre la protection de nos régions, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Une réaction recueillie par Pietro Bignon. 1 800 000 francs par an, c'est la somme que les transports publics genevois vont économiser en réduisant dès maintenant la fréquence de certaines lignes en période creuse. Nous vous le révélions hier, c'est la première mesure d'économie décidée après la votation sur les tarifs des TPG l'an dernier. Mais plus que l'ampleur de ces réductions d'horaires, c'est l'absence de toute communication de la part des TPG qui fait réagir aujourd'hui Mathieu Cuplin.
Les TPG n'avaient prévu aucune information au sujet du changement d'horaire que nous révélions hier. Pourtant, globalement, les chauffeurs de l'entreprise effectueront tout de même 3000 journées de conduite en moins cette année. De quoi faire fulminer les partisans de l'initiative sur les tarifs TPG qui ne voulaient en aucun cas d'une baisse des prestations de la régie publique. Pour eux, et contrairement à ce qu'affirme la direction des TPG, il ne s'agit pas d'une coupe indolore. Et surtout, le sentiment que l'entreprise a voulu agir en cachette passe mal. C'est une potion indigeste geste qu'on vise à faire avaler à l'usager dose après dose à la petite cuillère, s'insurge ainsi le groupe Solidarité. Cette absence de communication irrite jusqu'à certains élus ou membres du conseil d'administration pourtant favorables aux efforts d'économie. Car elle a de quoi raviver la méfiance et les tensions dans un canton où la mobilité est un sujet ultra sensible et où les partisans des différents modes de transport se regardent en chien de faïence.
Pas question pour le personnel de la ville de La Chaux-de-Fonds d'accepter les économies salariales décidées par le conseil communal. Réunis en assemblée intersyndicale hier soir, les employés refusent de payer, disent-ils, pour des pots qu'ils n'ont pas cassés. Ces mesures d'économie décidées dans l'urgence après la découverte d'un déficit de 12 millions dans les comptes 2014 de la ville. Déficit attribué à la mauvaise gestion du conseiller communal démissionnaire Pierre-André Monard.
Sa mémoire est saluée partout à travers le monde. Günther Grass, décédé hier à l'âge de 87 ans, fait l'objet de très nombreux hommages.
Et tous souligne l'engagement, le talent et le courage de ce prix Nobel de littérature. Markus Winkler, professeur de littérature allemande à l'université de Genève, estime ainsi que Günter Grass a renoué avec la modernité des lettres germaniques.
Après la césure marquée par le nazisme, Grass a même inspiré la modernité, dans la mesure où il est un des grands représentants du réalisme magique. Il renoue aussi avec des traditions anciennes qui ont été un peu reléguées au second plan par le classicisme allemand tel le baroque. Maintenant, sur le plan du contenu, on va toujours associer Günter Grass à la réflexion pénible de la nation allemande sur son passé, sur l'époque nazie. Donc là, il a fait du travail de pionnier.
Markus Winkler répondait à Pierre-Étienne Joie. En football maintenant, Servette est à nouveau en tête de la Challenge League après sa victoire hier 3-1 face à Vollone. Des Servettiens toujours dans l'attente de leur salaire du mois de mars.
Et en tennis, le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, c'est actuellement à Monte-Carlo.
Ah oui, l'occasion pour Stan Wawrinka de faire oublier sa mauvaise tournée américaine. Il doit réagir sous peine de perdre de précieux points et de s'enfoncer dans le doute, Hervé Borsier.
Tenant du titre, le joueur de Saint-Barthélemy a plus à perdre qu'à gagner sur le célèbre rocher de la Principauté. Au-delà de la perte de confiance du Vaudois éliminé au premier tour à Indian Wells et lors de son deuxième match à Miami, c'est la nette baisse de son niveau de jeu qui inquiète.
J'ai été très mauvais au niveau du tennis, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un mois en jouant mal. C'est la raison pour laquelle j'ai pas eu des bons résultats. Un mois de perdu, non, parce que ça m'a pas empêché de m'entraîner difficile, de pouvoir faire du physique aussi. En général, quand ça se passe pas bien de mon côté, j'essaye d'en faire plus pour retrouver les sensations. Même si j'ai pas eu les résultats que je voulais, j'ai pu travailler sur mon jeu.
Stan Wawrinka qui a décidé de se réserver une pause réparatrice.
J'ai coupé avec le tennis un maximum. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un petit peu de physique en Suisse et je suis arrivé ici pour pouvoir m'entraîner sur terre battue. Voilà, c'est important pour moi de sortir ma tête un peu du tennis, d'essayer d'être frais pour reprendre cette saison sur terre battue. Je m'entraîne assez dur pour retrouver le niveau et beaucoup d'heures, mais pour l'instant pas encore le niveau que j'aimerais avoir.
L'an dernier, pour expliquer ses baisses de régime, le Vaudois évoquait le temps qu'il lui fallait pour digérer son nouveau statut de vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Cette année, le numéro 9 mondial est dans l'obligation de redresser la barre et de retrouver le chemin du succès.
Et exempté du premier tour, Wawrinka devrait disputer son premier match demain.
C'était le journal de Didier Duployé. Météo, aujourd'hui temps bien ensoleillé malgré un ciel souvent voilé ce matin. Les températures de 6 à 11 actuellement, 22 à 24 cet après-midi, 0 à 2800 mètres. Demain, ce sera la plus belle et la plus chaude journée de la semaine, toujours ensoleillé et très doux. Demain, température 24 à 26.